Salut à tous et à toutes. On a clôturé donc ce beau premier plateau autour des rocos et des artistes qui vont faire l'affiche et qui ont fait l'affiche de cette journée du jeudi 31 octobre ici à Vendôme aux Rocomotives. On avait évoqué dans les dernières semaines, suite aux annonces, vous en avez entendu parler, chers auditeurs et auditrices, du projet de loi de finances concernant le FSER et la baisse des crédits alloués aux radios associatives qui nous a beaucoup animé. Donc, comme je le disais, ces 15 derniers jours, les nouvelles sont plutôt positives. On va y revenir dans les quelques minutes qui viennent, mais il nous tenait à cœur de poursuivre donc ce premier plateau avec certaines des radios présentes ici et d'autres invités sur lesquels on va pouvoir continuer, poursuivre cette exploration à la fois du FSER et puis des dangers qui planent encore sur les radios associatives au vu des dernières déclarations des différents parlementaires et du gouvernement. J'accueille une voix que vous n'avez pas entendue aujourd'hui, mais que vous entendrez dans les deux prochains jours, mais que vous connaissez bien si vous suivez les rocos depuis quelques années. Salut Julien.
Salut Thomas.
Merci de te joindre à nous en cette nouvelle mouture de Radio Roco. Et puis Yann Rick, donc chargé de mission à la Fracama, c'est ça ton titre hein?
C'est ça, chargé de mission territoire, hein, c'est le titre exact. Hein.
Donc on a convié plusieurs invités suite donc aux annonces du gouvernement de baisser les crédits du FSER qui est pour rappel l'organe principal de contrôle, on va y revenir, mais aussi de financement donc des radios associatives. Pour certaines radios associatives, elles représentent plus de 60 voire 70% des fois du financement de la radio. La moyenne nationale est à 40%, c'est à peu près celle de Studio ZEV, je ne sais pas pour les autres radios copines qui sont là aujourd'hui, mais en tout cas c'est un financement non négligeable pour les radios et cette baisse avait été annoncée, elle a été a priori maintenue, ce n'est pas encore acté, mais la mobilisation a payé, la corporation comme je l'appelle des radios associatives s'est largement mobilisée. Et donc les annonces de la ministre de la Culture ont l'air d'être sur, en tout cas pour l'année 2025, sur le maintien finalement de ces crédits donc qui sont de 34 ou 35 millions. Hein, on est là-dedans, ils voulaient la baisser de 10 millions et finalement donc, ils seront maintenus aux alentours de 34 millions. Le budget donc est maintenu, mais les outils et les remarques, notamment de députés RN, ont fait beaucoup vaciller et ont lancé quelques inquiétudes quant au contrôle accru de l'activité des radios associatives. Le député Jean-Philippe Ballard, pour ne pas le citer, a dit que les propos tenus sur certaines antennes n'étaient pas dans l'arc républicain. Voilà. Donc on va peut-être tenter de définir l'arc républicain, ouais. Messieurs, autour de cette table.
Avant toute chose, j'aimerais pour les auditeurs qui ne sont pas forcément coutumiers de nos acronymes redéfinir ce que c'est que le FSER, parce que
sûr.
Tu l'as dit beaucoup.
Tout à fait, et je ne l'ai pas développé.
Le FSER, vas-y. C'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, créé en 86 par François Mitterrand quand même, donc c'est quand même une relativement grosse institution. Je vais replacer aussi, moi j'ai quand même été coprésident de la Fracama et j'étais le défenseur des radios au sein de la Fracama, donc je portais la parole. J'ai même été élu à la CCPC. CPCC, voilà, excusez-moi, je confonds les lettres entre le soviétisme et la région centre. La conférence consultative permanente de la culture, et j'y étais aussi représentant pour les radios, donc je parle pas nulle part, voilà, j'ai travaillé pendant 11 ans à Radio Campus Orléans, voilà, j'ai raccroché mes fonctions l'année dernière, je suis ravi de revenir sur ce plateau. Et donc le FSER créé en 86 par François Mitterrand justement pour répondre au problème des deux modèles économiques qui s'affrontaient suite à la libéralisation de la bande FM en 81. Des mecs comme Bélanger ont vite compris qu'il y avait du flou à se faire avec la voix du lézard qui aujourd'hui est devenue Skyrock en abondant d'espace publicitaire puisqu'ils avaient un nouveau médium qui pouvait toucher les jeunes, donc du coup les publicitaires s'en sont emparés et d'autres se sont refusés à la publicité et du coup n'avaient pas les moyens, et donc François Mitterrand a décidé de créer la catégorie des radios associatives qui pouvaient aller émarger au FSER. Voilà pour un petit peu pour
merci
faire un
pour cette historique. Remise historique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la séquence qui vient de se dérouler?
Ben, on est dans l'ère de la post-vérité totale, du fascisme assumé et puis du totalitarisme. Enfin, on n'est même plus dans la tentation autoritaire. On est carrément dans la tentation totalitaire. On a même un gouvernement qui, bon, alors si on fait vachement plus large, ils ont quand même fait alliance avec le démon, hein, comme en 36, hein, plutôt voté Hitler que Front Populaire, c'est exactement ce qui nous ont servi comme soupe.
Ça ressemblait à ça.
Voilà, nouveau Front Populaire, et ben nouvel Hitler. C'est la punchline du soir. voilà, c'est hyper effrayant, mais hyper effrayant. On joue exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On est dans le post-fact. Il y a qu'à écouter Ciotti hier. Sur l'antenne face à Patrick Cohen. Ouais. Patrick Cohen qui est quand même pas le plus grand mec de la gauche qui est obligé de lui rétablir la vérité. Mais c'est des faits.
Et Ciotti qui ne veut pas l'écouter. Hein.
Non, qui ne veut pas l'écouter, qui dit bah non, mais ça c'est votre interprétation. Mais c'est pas une interprétation, mec. C'est la un contrat lunaire. En fait. C'est la séquence est ultra lunaire. Ils sont en train de s'écharper sur le bouquin de Jordan Bardella qui est refusé dans les gares. Et il dit oui, si ça avait été le bouquin de Jean-Luc Mélenchon, il aurait été publié. Ben non, en fait, l'éditeur n'a pas permis la publication de ces bouquins dans les gares. C'est contractuel. Ça n'a rien à voir avec un quelconque syndicat d'extrême gauche qui aurait empêché l'apparition de la publicité pour le bouquin de Merdella. Voilà. Donc on est dans une séquence totalement lunaire. On a aussi pareil cette proposition de faire fermer les radios qui tiendraient des propos communautaristes.
Alors tiens, les propos communautaristes ou en dehors de l'arc républicain, ils visent qui d'après toi, d'après vous?
Pardon?
Ils visent qui?
Bah, je sais pas.
Les punks à chiens des radios gauchistes telles que la nôtre, ou les radios vraiment qui sont mises en place par des communautés, voilà. Les radios portugaises, les radios du Maghreb.
Les France Maghreb, par exemple, n'est pas une radio associative. Hein, donc, du coup, ils sont dans les catégories B. Donc, je sais pas comment ils vont arriver à leur faire sauter le FSR. Déjà, ça montre une méconnaissance totale
du sujet.
Du sujet. Par contre, oui, les radios. Confessionnelles, à mon avis, elles n'ont pas grand chose à craindre. Hein, RCF, c'est pas eux qui vont être.
Alors, elles le touchent quand même, le FSR.
Oui, elles touchent le FSR. Mais elles n'ont pas grand chose à craindre de vouloir se faire fermer l'antenne par le RN. Oui. Par contre, les radios alternatives dites de gauche, comme Studio ZEF, qui était anciennement de l'OCCC. L'OCCE, pardon, j'ai du mal avec les acronymes. Je n'ai pas travaillé pendant un an, désolé. Voilà, vous étiez une radio d'éducation populaire. Radio Campus aussi s'inspire de ça. Radio Béton, qui est quand même une radio de
punk à chien.
Ouais, j'aime pas l'expression punk à chien, je la trouve hyper classiste. Qui est une radio hyper alternative, qui propose un modèle ultra différent de société. Les radios, je sais pas moi, même. Par contre, je pense pas que Courtoisie ait trop de problèmes. Voilà.
Probablement pas.
Ça risque pas leur mais radio Aligre, Radio Pirate à Marseille, Radio Libertaire 89.4 à Paris,
Radio Canu
à Lyon, ouais, Brume FM. Enfin voilà, toutes ces radios qui proposent en fait un autre regard sur la société, un regard neuf sur la sexualité. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. J'ai cité Cobra, incroyable, incroyable. Je m'attendais pas à pouvoir balancer ça. Et donc du coup, c'est tout ça qui est en danger. En fait, ce qui est en danger, c'est l'altérité déjà. Oui. L'altérité est en danger et l'alternativité en fait des propos.
Et c'est là où parfait, parce que tu me tends une perche pour ce que j'étais en train de fomenter un petit peu intérieurement là par rapport à ce qui se joue quand tu parlais de la question de la séquence là de ce qui est arrivé sur la question des radios. C'est dans le prolongement ou d'un arsenal qui est en train d'être déployé, qui est de façon très 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 globale, d'un monde ultra libéralisé qui souvenez-vous de Margaret Thatcher à l'époque, ça commence à remonter maintenant, c'était les années 80, mais qui cherchait à convaincre et qui a fini par convaincre un certain nombre de personnes qui n'avaient pas d'alternative au monde de la compétition débridée, où finalement c'est Darwin qui est derrière, savoir...
Le pseudo-darwinisme social.
Voilà, et économique, etc., etc., etc. Et ce qui se joue, j'ai l'impression, là, c'est une espèce de muselage en règle à tous les espaces où il est possible de le faire. Je ne vais peut-être pas dérouler non plus là sur le contrat d'engagement républicain, clairement...
Je voulais rebondir dessus, donc.
On va en parler évidemment.
On y est, mais ce qui s'est joué à mon avis à cet endroit-là, c'est ce qui se joue depuis un moment maintenant un peu partout. C'est les coutures du capitalisme ultralibéralisé pètent partout. Et les tenantes et les tenants, principalement les tenants d'ailleurs, de l'ultralibéralisme sont en train de verrouiller tout ce qu'ils et elles, parce qu'il y en a quand même, peuvent, pour en gros empêcher les voix qui simplement se risqueraient à faire entendre qu'il y a des alternatives il y a d'autres manières de penser les choses. Il y a.
On peut rappeler vite fait ce qu'engage ce contrat d'engagement républicain auprès des radios, mais auprès de beaucoup de structures, auprès de toutes les associations qui œuvrent notamment dans le champ de l'éducation populaire.
En fait, quand je travaillais dans une radio, j'avais alerté déjà à l'époque. Je me souviens en assemblée générale de la FRACAMA, j'avais dit ce truc-là, c'est une porte, c'est crypto-fasciste, c'est une porte ouverte vers la fermeture de toutes les associations. En fait, aujourd'hui, pour pouvoir émarger aux subsides publics, il faut signer...
Aux appels à projets, aux subventions locales, des territoires et des collectivités.
Il faut signer un contrat d'engagement républicain qui, en gros, est hyper flou. Un bon contrat, on m'a toujours dit, moi, un bon contrat bien rédigé, c'est un contrat qui est flou. Donc là, il est hyper bien rédigé, vu qu'il est hyper flou, et il engage les gens à respecter les valeurs de la République et à ne pas faire promotion de sédition ou de faction ou de communautarisme. Et ce contrat d'engagement républicain, en fait, il est vide. Et en gros, n'importe quel gouvernement qui arrive après, qui a des idées ultra arrêtées, peut faire décider que, vu que tu as signé ça, et ben en fait... tu n'as pas respecté mon contrat d'engagement républicain. Mais en réalité, c'est quoi les valeurs? En fait, il n'y a même pas de préambule pour essayer de se mettre d'accord sur les valeurs qu'on veut défendre et qu'on veut respecter.
Et ça va exactement dans le même sens de la question qu'on ouvrait tout à l'heure, de savoir comment définir ce que c'est que ce fameux arc républicain dont
tout est lié,
la gauche et la gauche radicale
se
revendiquent.
Se retrouve exclu par ceux qui aujourd'hui ont pris le pouvoir, alors qu'en réalité, quand on voit les décisions du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, qui est quand même pas hyper à gauche, quoi, a quand même dit que non, Mélenchon n'était pas d'extrême gauche, mais que oui, le RN était d'extrême droite et en dehors de l'arc républicain.
C'est ça, et c'est là où on rejoint sur ce que tu disais tout à l'heure en ouverture, sur la question en fait de la post-vérité. Aujourd'hui, on nous fait croire que le contraire est son tout et que le tout est son contraire, que la gauche est la droite, que la droite est la gauche, que les antisémites défendent la cause palestinienne et que les défenseurs de la cause palestinienne sont antisémites. C'est à n'y plus rien comprendre. Je commence à déborder un peu, peut-être.
Oui, mais ça vient. Enfin, je sais pas. On peut lire aussi. On peut relire Jean-Luc Nancy.
Et je passe la parole après, Julien. Vas-y, finis.
Pardon. On peut relire Jean-Luc Nancy qui parle de ce système de l'équivalence, survivre à Fukushima, justement, qui est un essai d'environ une cinquantaine de pages qui vient justement montrer comment on va arriver à l'ère de la post-vérité avec les systèmes de pseudo-équivalence. Et on met sur le même plan des choses qui en fait ne sont pas équivalentes, ne sont pas du même ressort. Et par contre, les choses qui pourraient être mises du même ressort sur le même plan, là, elles vont être discréditées en disant « Ouais, tu dis n'importe quoi, t'en fais des caisses, tu caricatures !» Et en fait, ça permet de détruire tous les systèmes de référence qu'on a. Et ça, c'est une stratégie bien connue de l'extrême droite depuis très très longtemps. Et on va arriver à un point Godwin ultra rapide, ça s'appelle le confusionnisme. Et dans le plus bel exemple de ce qu'est le confusionnisme, c'est que tu prends national-socialiste. Les mecs, c'est des nationalistes purs et durs et convaincus. D'ailleurs, la réduction nazi, le nazi ne vient pas pour socialiste, il vient pour le national, en fait. C'est juste des nationalistes qui derrière se sont accolés le mot socialiste pour donner l'impression et mélanger les genres en fait et créer dès les années 30 une post-vérité. Non, on n'est pas national et socialiste, ça n'est pas possible, c'est antinomique.
On accueille un nouveau challenger à la table.
Voilà, pas forcément
JP.
Pas forcément challenger. Bonjour, donc Jean-Philippe Béraud, attaché de presse des Reconquêtes.
Oui, voilà, voilà. Représentant.
Je pense qu'il sera intéressant aussi d'interroger quelqu'un qui est avec nous, qui est.
Il a été invité à venir.
Il pourrait venir se joindre à nous, Xavier Le Boursico, directeur de la Ferrarock, donc la fédération de radio auquel appartient entre autres
Les radios gauchistes, voilà. Il me semble.
Les radios gauchistes et qui est
en partie certaines des radios gauchistes.
L'autre fédération des radios gauchistes, qui est au syndicat des musiques actuelles. Je voudrais rebondir sur ces questions de pour recentrer un petit peu sur la question du financement des associations. Il y a un rapport qu'on m'a filé l'autre jour. En se disant que j'aurais envie de lire ça, c'était assez surprenant. Un rapport du Conseil économique, social et écologique, puisqu'il s'appelle comme ça maintenant, voilà, sur le financement des associations. Je n'ai lu ça qu'en travers, parce que ça ne me passionne pas plus que ça. Mais néanmoins, les conclusions étaient les suivantes. et j'ai retrouvé des choses que j'avais entendues au congrès du SMA. Xavier va pouvoir nous en parler. En gros, le Conseil économique et social soulignait le fait qu'il y avait un lent glissement vers des demandes auprès des associations qui soient, pour ainsi dire, de la réponse aux appels d'offres plutôt que de la simple confiance. C'est-à-dire, ah, attends, on va te mettre...
10 ans qu'on le dénonce.
Ça fait longtemps,
la logique libérale qui est en place. Ouais.
Oui, voilà, le principe de tiens quand même, avant qu'on te donne de l'argent pour faire ce pourquoi tu as dans tes statuts une existence, on va quand même te demander de répondre à tel ou tel appel d'offres. J'ai entendu au SMA...
Appel à projet dans le milieu.
Tout à fait, c'est bien pour ça que je fais exprès. C'est bien pour ça que je fais exprès d'utiliser le terme appel d'offres. J'ai entendu au SMA dans au cours du congrès auquel j'ai été invité, n'étant pas ou pas encore membre, des récriminations sur et justifiées sur l'idée qu'aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de structures dans la musique passaient leur temps à faire des dossiers pour faire des réponses à des appels à projets. Ce qu'il faut
d'ailleurs dans les appels à projets, hein, si je peux me permettre, moi, la dernière fois que je suis parti, on nous critiquait le fait de mettre du salariat dans les budgets prévisionnels. Et les mecs, en fait, ils vont se faire comment les projets? On peut pas passer 100% de ce qu'on vous demande dans en fait il y a une dichotomie complète. En fait, il faut passer du temps à répondre à des appels à projets qui sont uniformes. Finalement, on se fait bouler, donc l'année d'après, tout le monde répond de la même manière. Il y en a un qui va être choisi au Fait du Prince s'il est un peu pote avec le délégué du préfet. Ça, en plus, c'est fait pour faire du cadeau, en fait.
Alors, il peut y avoir forcément un petit rebond par rapport à ce qui était la réserve parlementaire qui permettait.
Non, voilà. Quand je voulais dire du cadeau, c'est pour arroser et acheter des paix sociales.
Oui, mais ce que je veux dire, Julien, c'est que il y avait auparavant ce principe qui est pas forcément mauvais, mais enfin qui amenait des dérives de l'enveloppe parlementaire
permettant de financer, en fait, nous demander de faire des appels. En fait, l'enveloppe parlementaire, elle était au Fait du Prince, elle était privée et elle était pas ouverte sous forme d'appel à projet limité dans le temps. Tu pouvais rencontrer ton député, lui soumettre un projet, et si oui ou non il le prenait. Là, aujourd'hui, l'appel à projet, tu sais même pas comment derrière tu vas être évalué, en fait.
J'ai l'impression qu'au-delà de ça, l'enjeu autour de la démultiplication des appels à projets, c'est qu'on est en train de... c'est pas d'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place de plus en plus fort du côté de l'État, qui passe d'une logique d'obligation de moyens, de donner, en gros, aux citoyennes et aux citoyens la possibilité d'exercer leurs droits, à une obligation d'objectif. Et c'est là où on glisse sur des logiques de commande, et c'est là où tout d'un coup des contrats du type du contrat d'engagement républicain deviennent délétères, parce que le politique qui au départ est au service de ses administrés se retrouve à être le commanditaire de missions qui n'ont qu'à être exécutées dans les clous décidés par le politique plutôt que dans des cadres qui permettent à chaque citoyen et citoyenne en fait d'exercer son droit. Là, on est en train de glisser dans cette espèce de logique-là.
C'est pour ainsi dire stalinien. Allez par là, les mecs, parce que c'est par là qu'on veut que vous allez vous y alliez, en n'ayant pas du tout les moyens du stalinisme. Parce que à la limite, personnellement, mon petit côté stalinien très étatiste ferait que j'aurais rien contre. Sauf que là, ça se traduit juste par une baisse de moyens assez significative. Il y a quand même quelque chose dont il faut être conscient, dont je me rendais compte l'autre jour. Les 10 millions qu'on a failli retirer au FSER, donc le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui permet aux radios associatives de se financer, de tenir debout, a fortiori dans
c'est
un contexte où la...
10 millions de plus qu'il faudrait d'ailleurs. Non, en plus.
C'était en gros, on était sur 33 ou 35 millions et ils voulaient descendre à 24, ce qui est quand même relativement
significatif. En fait, ils voudraient monter plutôt à 47. Quoi.
Ouais. Après, Julien, le principe, c'est quand même qu'on a malheureusement aujourd'hui beaucoup de causes pour lesquelles on a besoin de pognon. Juste à titre de comparaison. Je lisais l'autre jour que la France aujourd'hui emprunte à un taux supérieur à l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que même la Grèce aujourd'hui, lorsqu'elle emprunte, elle emprunte moins cher que la France. L'année prochaine, la France va emprunter 345 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quasiment 1 milliard par jour. Ça veut dire que par tête de pipe, la France va emprunter à peu près 5 000 euros. on se dit que oh bah c'est pas très grave, la différence de taux entre le taux qu'emprunte le taux d'emprunt pour la Grèce qui est 2,40 et de la France 2,48, on se dit c'est peanuts, c'est pas grand-chose. J'ai pris ma calculatrice parce que des fois je suis un peu couillon et j'ai besoin de comprendre. J'ai regardé, ça fait 276 millions. Et donc vous imaginez bien que Barnier qui arrive après ses copains en faisant bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il fait ah ouais, ça va être compliqué, il va chercher à gratter à droite à gauche. Et finalement, j'ai presque l'impression que si les radios obtiennent gain de cause, c'est parce qu'elles ont été en mesure de dire hey, « Eh, nous, honnêtement, c'est peanuts par rapport aux dégâts que ça pourrait faire si c'est plus là. » Mais il faut quand même avoir, je pense, une réflexion un peu méta là-dessus et se dire « De toute façon, on va pouvoir se battre les uns contre les autres ou les uns avec les autres pour garder des financements. Mais à un moment, oui, si c'est juste se battre contre l'école, contre l'hôpital, ça va être un petit peu, peu compliqué. »
C'est pas ça que je veux. Moi, c'est surtout qu'on aille se battre contre Arnaud. Hein. Enfin, tu vois, c'est là où il va falloir aller chercher le pognon, mec. Enfin, je sais pas si tu...
Je ressens le débat. On accueille notre cinquième homme blanc à table.
C'est ça, Xavier, que niveau parité, on est totalement...
Xavier Le Borsico, donc, pour l'Afera, comment la séquence, elle a été vécue pour le réseau? Et puis, comme tu es dans les instances, notamment du SMA, comme le disait JP, qu'est-ce que toi, t'en ressors de toute cette séquence de dingue?
Surtout le début sur le point de vue des radios associatives, moi je suis complètement d'accord avec Julien et qui connaît bien aussi le réseau des radios campus. On fait un travail relativement similaire là-dessus.
Bien sûr.
On travaille avec les syndicats de radio et je pense que la démonstration de force et d'union qu'on a pu avoir rapide entre le moment de l'annonce et le moment de l'annonce du retrait du retour en arrière du ministre du budget cette semaine, il y a eu une dizaine, quinzaine de jours de mobilisation. Ça a été beaucoup plus que ce qu'ils avaient attendu. Donc là-dessus, on sait qu'on a plutôt bien bossé. Sauf qu'au final, en fait, on est quasiment en train de se réjouir là d'avoir une victoire qui n'est pas du tout une victoire. On a juste le même budget que l'année dernière. Donc en fait, c'est moins bien. L'année dernière, nous, si tu prends, tu me questionnais sur l'angle des musiques actuelles, au syndicat des musiques actuelles, l'année dernière, sur la même séquence, le PLF arrive, donc, comme tous les ans, le projet de loi de finances, et puis il y a toute cette séquence qui dure sur octobre, novembre, décembre. Il y a les amendements, il y a les commissions qui se réunissent. C'est le moment de refaire du lobbying, parce que ce mot n'est pas forcément un gros mot quand on le fait à cet endroit-là. C'est clairement du lobbying qu'on a fait là pendant 15 jours. Nous, les combats qu'on avait il y a un an, c'était refinancer le plancher de financement des SMAC et aussi la question de la taxe streaming.
Les salles de musique actuelles, comme.
Les salles de musique actuelles, les lieux de diffusion de musique actuelle. Et la taxe streaming, qui est un autre grand débat, mais en tout cas, c'était le choix qui avait été fait par le syndicat. Le projet de loi de finances, début octobre, il y a un an, ne prévoyait aucun des deux. Le boulot de lobbying qui avait été mis en place et qui avait obtenu d'ailleurs un vote à l'unanimité en commission culture, ce qui était une première sur le financement des lieux de musique actuels, ça a été vers un mieux-disant. Donc en fait, on a fait toute cette séquence de lobby qu'on a travaillé il y a un an, c'était pour obtenir des choses qu'on n'avait pas auparavant. Donc vraiment des avancées. Là, en fait, on s'est battu avec la même énergie, de façon plus chronophage, parce que je pense que nous, les radios associatives... On était considérés un peu comme des proies faciles. C'est pour ça qu'ils ont attaqué aussi vulgairement là-dessus. Ça nous a beaucoup mobilisés. Ça a créé beaucoup de panique, beaucoup de peur dans beaucoup de radios associatives. Vous le disiez tout à l'heure, mais en moyenne, 40% des budgets d'une radio associative, c'est le FSER. Là, toutes les radios qu'on a autour de nous, en tant que fédération, on les voit, qui sont en embauche en ce moment, qui sont sur de l'investissement, qui sont sur des nouveaux projets. Tout le monde s'est mis en stand-by.
Et pour,
donc on a moins travaillé pendant ce temps-là et finalement tout ce qu'on a pu obtenir à la fin, c'est rien de plus que ce qu'on avait avant, ou un peu moins bien.
Ouais. Pour prolonger ce que tu disais tout à l'heure, Julien, sur le salariat, effectivement, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe, je parle pour ma petite paroisse blésoise, mais ceux qui répondent aux appels à projets, ceux qui mènent les actions d'éducation aux médias, etc., c'est pas les bénévoles, c'est les salariés. Donc effectivement, si on coupe ce budget, c'est l'impact, l'emploi salarié qui est directement visé, hein, clairement.
Et puis même si c'est des bénévoles, ils sont accompagnés par les salariés. Enfin voilà, de toute façon, des structures comme ça qui tournent avec des budgets à 200 000 euros en moyenne, enfin tu vois.
Oui, plus ou moins, mais
plus
voilà.
Ou moins, c'est sûr que ça, tu fais pas 200 000 euros qu'avec des bénévoles, quoi. Enfin, il y a un moment, faut juste. Et puis, en fait, même quand on te demande d'organiser des appels à projets avec des concerts, mais les mecs, ils jouent pas gratos. Donc, je le passe dans mes charges de salaire.
Ah, les salauds d'artistes, c'est ça que tu veux dire, Julien?
Mais non, mais moi, j'ai rien contre. Enfin,
payé pour travailler, quoi. Mais où va le monde?
Non, mais où va le monde, quoi? Enfin, on s'est jamais posé la question de pourquoi on paye les militaires à répéter la guerre, quoi. Enfin, je suis désolé.
Non, mais c'est
l'image est pas mal.
C'est le risque, effectivement, dans des on peut le dire, des secteurs, des métiers passion où il y a des bénévoles. Par exemple, on fait pas un festival sans avoir des bénévoles. Bon bah c'est attendez les gars, puisque il y a une partie qui est gratuite, et globalement vous allez tenir uniquement sur du gratuit. Or effectivement, je pense que dans ce contexte-là, on se retrouve à avoir une difficulté à démontrer le poids économique qu'on peut avoir et le poids de lien social que ça peut faire. Tout à l'heure sur l'émission Radio Rocco, on parlait ruralité. Je lisais l'autre jour un papier, désolé, dans l'Humanité, désolé, je ne lis pas que l'Humain, mais bon, qui comparait sur une même circonscription en Bretagne, une de celles qui avait voté RN, ce qui est quand même relativement rare en Bretagne, et qui comparait deux villages, vraiment deux petits bleds, l'un ayant voté assez haut pour le FN, l'autre quasiment pas. Et c'est pas compliqué. D'un côté, c'était un village qui était mort, où il se passait rien. De l'autre côté, un village où il y avait du lien social, de l'association, etc. Et l'air de rien, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure de ce rapport du Conseil économique et social, il y a presque une question de volonté écologique. Il y a presque et c'est intéressant ce que tu dis sur l'écologie, je vais y revenir. Il y a presque une volonté pour moi, parce que les conclusions, si on les lit, ça dit en gros pour donner plus de lien social, pour donner plus de parité homme-femme, pour donner plus de place aux minorités. Bah, en gros, attendez, vous voulez du pognon pour ça ? Juste, il y a la droite, l'extrême droite, qui ne veut pas ça. Donc, dans un sens, il faut poser carte sur table. Ok, vous voulez ça, vous voulez pas ça. Le problème, c'est le double discours d'une partie de l'extrême droite qui va dire à des gens, attendez, vous aurez, on va lutter contre les ultralibéraux, etc. Et en réalité, ne vont faire que...
le confusionnisme.
Oui. Exactement, c'est tout à fait ce que tu disais. Sur ce que tu soulignais, écologique, le principe de l'écologie, c'est quoi ? C'est que tout est lié. Et je pense qu'il y a un refus d'une partie des financeurs ou des pouvoirs, des médias, de la droite, d'admettre que même si l'équation elle est plus complexe, tout est lié quand même. Et notre grande difficulté, je pense, dans notre secteur culturel, c'est de montrer que nos petits trucs qui pèsent pas lourd, bah finalement... si on coupe, ils ont un impact total. Voilà. Même si c'est, il faut rester modeste, mais c'est un ensemble.
Juste pour un petit rebond sémantique qui m'amuse quand tu définis l'écologie, tout ce qui est lié, c'est aussi étymologiquement le sens de l'économie. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à lire Alain Deneau, Arrachons l'économie aux économistes, qui nous a rappelé à l'espace de trois ouvrages le sens premier de l'économie. On parlait de l'économie de la nature avant de parler de l'écologie. On parlait de l'économie d'un roman pour aborder les aspects critiques de la réception de la production littéraire et narrative, quoi. L'économie aussi, pour le coup, et c'est des enjeux qui pourraient facilement se rejoindre. Conseil économique et social et écologique.
De manière générale, c'est sûr que c'est plus simple de ne penser que à soi sur une petite équation. Et c'est le risque, je pense, pour nos secteurs qui sont économiquement menacés. Parce que avoir idée de l'économie et de la réalité de nos interlocuteurs, c'est pas simple. Moi, très concrètement, en tant qu'attaché de presse qui travaille pour les Rocco, mais aussi pour des artistes, je suis en train de me plaindre qu'il y a une partie de l'année où je sais que je vais avoir du mal à avoir certains programmateurs en ligne ou par mail parce que ils sont en train de s'occuper de leur FSER. Mais c'est normal. C'est normal. Sauf que si de plus en plus on est en train de se battre pour quelques centimes, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se regarder en chaîne faillance en disant, c'est toi la faute, elle est en face. Non.
C'est la stratégie.
C'est pour ça que c'est là où c'est bien que des gens comme le SMA arrive, c'est ce que soulignait Xavier tout à l'heure, à être suffisamment puissants dans leur argumentation et dans leur compréhension des différents enjeux pour arriver à ce que différents bords politiques comprennent que quand même, oui, il y a des logiques.
Xavier.
C'est intéressant que tu prennes l'angle là, de parler des radios dans l'écosystème et dans la filière musique ou musique actuelle, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de l'activité, particulièrement pour les radios qui sont ici, par exemple, qui s'intéressent au festival de musique. Ouais. Mais c'est qu'une partie de la filière dans laquelle sont les radios. Oui, c'est la filière des médias en général. Donc là, si on doit parler du travail syndical et de lobbying, il faut surtout pas oublier le travail des syndicats de radio qui, là,
on
était...
CNRA et le SNRL, tout à fait.
Et il y en a un troisième...
Qui ont créé cette année une association qui s'appelle Les Locales, voilà, qui parle d'une seule voix, donc c'est la première fois...
C'est le regroupement des deux, Jules.
Voilà. C'est le méta.
C'est le méta.
Qui regroupe 750 radios associatives existantes et qui a fait un travail de lobbying hyper impressionnant face aux autres lobbies que sont les autres radios et les autres syndicats. Parce que le monde des médias, il est aussi très structuré et il est structuré avec des tout à l'heure tu parlais là de la question de l'intérêt. Pour qui est-ce qu'on fait les choses? On sait, nous, pourquoi nous les radios associatives, pour qui on fait les choses, qui nous sommes, qui sont les personnes qui participent et à qui est-ce qu'on s'adresse, même si on aimerait s'adresser à plus encore. Mais on sait aussi qu'il y a quand même d'autres médias qui, eux, on sait pour qui ils roulent, qui sont des médias qui sont de grandes audiences, qui sont télévisuels ou qui sont radio. Et nous, il ne faut pas oublier que dans notre écosystème, il y a c'est le monde de la musique dans laquelle nous ne sommes que les radios, et dans le monde des médias, nous ne sommes que les radios associatives face à un secteur public qu'il faut encore défendre et qui a une digue qui a un peu cédé, hein, quand récemment
on a cédé encore.
Ouais, que déjà la fin de la redevance, c'était quand même un acte qui était une fin de première digue un peu pour nous, ou en tout cas une protection. Là, ils ont testé finalement. D'abord, on enlève la redevance. Là, le projet du RN, c'est quand même de privatiser Radio France quand même. Donc nous, derrière, on est peu de choses derrière.
Radio France est un peu aussi responsable de sa propre chute. J'ai envie de dire, il y a certains endroits quand on accepte la holding, quand on accepte Sibin Weil, enfin il y a des trucs. C'est pas le sujet, mais.
Je pense que dans les temps qui
courent. On défend le service public, Julien.
Oui, je défends le service public.
Par les temps qui courent, il faut les voir comme des alliés, je pense.
Je suis le premier, ça m'attire parfois des ennuis à être en tant qu'attaché de presse critique de ce que peut faire ou ne pas faire le service public, mais c'est. Et Radio France, mais c'est essentiellement parce que je tiens à ce que ça représente et à ce que ça amène. Et c'est vrai qu'il y a toujours un risque de petits compromis se transforment en grosses compromissions, simplement parce que c'est quand même des métiers, des jobs dans lesquels tu te fais virer, il n'y a pas 50 jobs à côté. Ce qui est intéressant aussi de souligner quand même, c'est que niveau média, autant ça pèse dans l'opinion pour plein de choses, autant économiquement, c'est quand même pas grand-chose. C'est ce qui fait que un certain nombre de pouvoirs économiques ont pu assez facilement se payer des médias et que c'est pas pour rien qu'un Bolloré va mettre beaucoup d'argent. Il est pas bête, il sait que ça va être à perte, mais c'est pour imposer des idées. Et effectivement, la difficulté, c'est que pour eux en face, il y a un public qui normalement est là pour défendre un peu autre chose et des radios associatives, des initiatives associatives de manière générale, qui sont mues par autre chose et qu'on ne peut pas acheter stricto sensu. Donc ça, mais il faut quand même être conscient que les radios privées, elles commencent seulement à se rendre compte qu'elles ne sont pas en très bonne santé non plus, puisqu'elles dépendent de la publicité. Donc là, dans ces cas-là, ça commence à se bouffer entre eux et à faire un peu n'importe quoi.
Yann.
C'est là où j'ai l'impression qu'il y a des enjeux aussi. On parlait par exemple de Radio France ou du service public audiovisuel. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez capital à avoir en tête, à savoir ne pas différencier le principe de ce que c'est que l'institution publique, de ce que c'est que le service public et les personnes qui les pilotent à l'heure où on se parle. Qui dévoie en fait le principe du service public. Il y a des enjeux à défendre, au même titre que par exemple ce qui différencie une radio associative d'une radio commerciale, c'est qu'elle est à but non lucratif, gestion désintéressée. Alors certes, économiquement parlant, elle va pas générer de la plus-value marchande parce que c'est pas son objet. La valeur qu'elle va produire et la valeur qu'elle crée, elle est par ailleurs. Pour autant, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, quand tu parlais notamment de l'USNRL, de la locale, du CNRA.
Le syndicat de radio.
Exactement. Il y a un enjeu. Tout à l'heure, on parlait, je rebondis un peu en arrière, sur cette espèce de course aux appels à projets là, qui nous arrive dans le monde de la culture au sens assez large et qui est arrivé depuis un moment maintenant et puis qui est en train de désinguer le monde de la recherche aussi, où on se retrouve avec des chercheuses.
Désinguer avant, en fait. Hein.
Des chercheuses et des chercheurs, en tout cas, qui passent plus de temps à chercher des moyens de chercher qu'à chercher ce sur quoi il et elle étaient censés chercher. Les médias, les associations culturelles et autres se retrouvent aussi à quelque part plutôt chercher des moyens d'exister économique plutôt que de simplement s'appuyer sur les valeurs qu'elles produisent, qu'elles défendent, qui ne sont pas marchandes, mais qui sont de plus en plus dévaluées par des logiques très comptables. Arrachons l'économie aux économistes, reprenons un petit peu le sens du service qu'on propose, qu'on produit, qu'on partage. Revenons à des logiques d'économie contributive, de valorisation du produit culturel au sens large du terme, des productions culturelles au sens large du terme. Et à cet endroit-là, les organisations collectives notamment sont capitales, que ce soit l'affaire Aroc, que ce soit le réseau Campus, que ce soit à notre petite échelle modestement l'AFRACAMA, parce qu'on est les rares à être encore financés, à avoir l'espace-temps et les moyens financiers de nous intéresser à ces questions de fond dont les actrices et les acteurs de terrain n'ont plus le temps de s'occuper.
Et puis peut-être juste pour... parce que c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup de la part des auditeurs et des auditrices qui se questionnaient sur quand on leur parlait de cette chute de subvention, de dire mais qui est l'ennemi, qui va chercher, qui souvent on a entendu des gens qui connaissaient, qui s'intéressaient à la question et qui la connaissaient pas forcément bien, dire mais est-ce que c'est les radios commerciales qui sont vos ennemis et qui sont le lobby qui ont fait qu'il y aurait ce problème. Faut savoir que non, les radios commerciales régionales notamment, elles sont pas du tout prêtes à ce que les radios associatives perdent leurs moyens, parce que ça voudrait dire qu'elles iraient chercher le peu de publicité qu'elles ont le droit d'aller chercher, que certaines d'entre elles s'arrêteraient, donc ça veut dire qu'elles devraient payer leur... Alors c'est un peu technique, mais il y a des diffusions un peu mutualisées entre des radios.
Elles deviendraient des concurrentes directes, en fait.
Elles deviendraient des concurrentes, et celles qui s'arrêteraient augmenteraient leur coût de diffusion, puisqu'on mutualise certains coûts de diffusion, pour ne pas rentrer trop dans le détail de ces nouveaux formats. Mais en tout cas, pour rassurer les personnes qui s'en sont inquiétées, et pas rentrer et pas se tromper d'ennemis, c'est pas les radios commerciales locales qui ont souhaité la fin du FSER.
Je précise qu'effectivement, alors je suis pas sûr que ce soit vrai partout, mais à Blois, la radio commerciale locale est venue faire un billet sur la potentielle disparition du FSER et a affiché clairement son soutien avec notre situation. Donc il y a une vraie compréhension du monde du média local.
Ouais. C'est important de pas l'oublier pour pas se tromper d'ennemis quand un moment on veut aider nos radios associatives en tant que public.
De manière générale.
Et avec ce que tu dis là, quelque part, j'ai l'impression qu'on touche peut-être du doigt une des raisons qui fait que les radios ont peut-être obtenu gain de cause là sur ce coup-là, c'est qu'au final, une économie aurait engendré plus de pertes. C'est ce qui est en train, peut-être, j'ose l'espérer, parce que c'est relativement bien défendu, ce qui est en train de se passer du côté de la santé, où on s'aperçoit que là, avec un certain nombre de soins qui vont potentiellement s'arrêter avec le PLF, quoi, il y a des gens qui commencent à essayer de nous faire comprendre que d'arrêter de soigner les gens, ça va coûter plus cher, in fine, quoi, à la collectivité. Ouais,
c'est comme les 3 jours de carence. Ça coûte plus cher à ton entreprise d'avoir 3 jours de carence que de rester chez toi pour te soigner.
De manière générale, effectivement, c'est la difficulté de défendre quelque chose qui est sur un calcul probablement un peu plus complexe et moyen ou long terme que le calcul immédiat de ça coûte cher, on coupe. Il est vrai que si on vend au clampin de base l'idée que lui il va bosser tous les matins, c'est dur, et qu'il y a des vilains intermittents qui branlent rien, on va supprimer l'intermittence. Sauf que derrière, être capable de calculer ce que ça peut représenter et que ça ne va pas être positif, et que c'est pas pour autant que lui qui se lève le matin va continuer de le faire, parce qu'au bout d'un moment il aura même plus de job, ça fonctionnera pas. La grande difficulté, je pense, c'est la quantification, si on peut dire, tout simplement le fait que on aime bien avoir du chiffre, et même dans nos métiers, hein, je veux dire, combien de festivals vont programmer en regardant combien t'as d'amis MySpace, d'écoute Spotify, et là je te dirais si j'aime ta musique, ça rassure d'avoir du chiffre, ça rassure, sauf que dans tout ce qui est qualitatif, comme le travail qui peut être fait au niveau associatif, on n'a pas toujours du chiffre, ou ce chiffre-là, il n'est pas toujours très important. Oui, à la limite, un festival comme les Rocomotives, et encore, c'est un festival qui n'est pas
c'est
tout petit, mais en termes de nombre de gens que ça ramène, c'est pas énorme. Sauf que c'est quand même, ça a quand même beaucoup d'impact au total. Donc si on prend juste le chiffre, la moindre manifestation de 8e de finaliste de la nouvelle Starac 2014 va être capable de ramener plus de monde. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Mais je pense qu'on a une vraie difficulté. Ce que tu disais tout à l'heure, Yann, c'est que dans les institutions, il y a encore un peu ces moyens-là, mais dans les structures elles-mêmes, on n'a pas de temps à dégager, parce que c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, programmateur qui est en train de faire son FSER, quoi. Et on perd des arguments dans ce cas-là.
On va conclure cette... si, quand même, à un moment donné, on commence à avoir fait le tour, même s'il y a 1000 sujets.
On a divergé
vers la santé, etc. On voit bien que tout est lié.
Tout est lié à cause du RN. Hein.
Voilà.
Franchement, il n'y a pas... RN et l'extrême centre. Enfin, il y a un moment...
Tout à fait. Voilà. Cette expression très intéressante, sur laquelle nous n'avons pas le temps de revenir, Julien.
Demain, on commencera l'émission par qu'est-ce que l'extrême centre.
Est-ce que rapidement un petit mot pour conclure, messieurs, si vous voulez apporter une dernière touche sur tous les échanges qu'on vient d'avoir autour du sujet et plus largement.
Résistance, appel à l'organisation de la solidarité, c'est peut-être le meilleur moyen de résister que de se serrer les coudes, de se tenir chaud et de faire face, parce qu'on est vachement plus nombreux et nombreux qu'on essaie de nous le faire croire.
La solidarité a très bien fonctionné sur cette séquence au niveau des radios associatives, comme l'a rappelé Xavier.
Vas-y, ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux.
Très bien. Xavier. Ouais,
la solidarité, bien sûr, je pense que là on a fait un beau mouvement collectif qui a impressionné, qui a fait reculer, et que maintenant ça nous rend pas moins fragiles, mais ça nous montre moins attaquables.
Ne pas se tromper d'ennemis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences de vue, de position même au sein de la culture. Il y a un moment, faut se poser la question de est-ce qu'on est dans quel bateau on est. Or, au bout d'un moment, on va se rendre compte que tout le monde est dans le même bateau. Et c'est ça le principe écologique que je soulignais tout à l'heure. Quand on défend, par exemple, un budget d'une radio associative, c'est pas juste moi parce que je vais garder mon petit truc. C'est parce que c'est un ensemble et que faire la relation, c'est pas simple. Mais il suffit de voir, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre dans un pays dans lequel il y a très peu de financement public, très peu de... En général, c'est la démonstration que je fais, et je vais conclure là-dessus. Si vous trouvez qu'il y a trop de prélèvements obligatoires, allez en Érythrée, il y en a très très peu.
Voilà. On est tous le cheminot de quelque part.
Effectivement. Moi, je terminerai sur un terme qu'on n'a pas utilisé, qui est propre aux radios associatives, qui est la communication sociale de proximité, que l'on continuera tant bien que mal, avec les budgets qui nous seront alloués, avec plus ou moins de difficultés, à assurer cette mission des radios associatives qui ont fait ce plateau d'aujourd'hui et qui feront les plateaux de demain. En remerciant les auditeurs et les auditrices qui nous ont suivis jusqu'au bout, en remerciant les quatre intervenants qui étaient avec moi autour de cette table, en remerciant tous les animateurs et animatrices de l'émission d'aujourd'hui pour ce premier plateau en direct des Rocos. Merci messieurs.
Merci, à demain.
Les programmes continuent sur vos radios respectives et on reste solidaires et engagés sur la question. À très bientôt. Salut.